ce matin, je vais vous inviter à suivre les pas de l'apôtre Pierre, de suivre aussi ses paroles. Alors dans Matthieu 16, il y a cette fameuse question que Jésus adresse à ses disciples. « Qui dites-vous que je suis ?» Et je crois que là, il faut un peu faire attention, parce que parfois, ça vient vite, hein, on peut vite devenir orgueilleux quand on reçoit des paroles, des révélations, surtout des paroles, par exemple, de connaissances, des paroles qui se confirment, et ainsi de suite. On peut dire « Ah, moi, ouais, moi, je suis spirituel. » Ouais, on roule des mécaniques spirituelles. Et je crois que ça, c'est dangereux et néfaste. Donc soyons heureux parce que Dieu nous fait des cadeaux, donc soyons heureux et ne soyons pas orgueilleux. Et donc, une fois que Pierre a eu cette révélation et qu'il l'a partagée, que Jésus est le Fils de Dieu, là Jésus va partager le plan divin à ses disciples. 16 verset 21, on est toujours dans l'évangile de Matthieu. Dès lors, donc une fois que cette révélation a été proclamée, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Et là, Pierre, ça fait réagir Pierre. Pierre prend le Seigneur à part. Il se met à le reprendre et le dit « À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc, il y a eu cette révélation que le Père a donnée à Pierre et dans la foulée, ce raisonnement humain qui suit, j'aurais même envie de dire cette attitude de familiarité dont Pierre fait preuve. Et c'est comme si quelque part, ce que Jésus a annoncé, la croix quelque part, ça n'entrait pas dans la conception de Pierre. Ça n'entrait pas, c'était pas dans sa perspective des choses, dans son paradigme. Et il dit carrément, cela ne t'arrivera pas. En gros, c'est pas le plan de Dieu. C'est là, tu es à côté, quoi, quelque part. Et là, on voit bien sûr la réaction de Jésus qui ne fait aucun compromis par rapport à ça, par rapport au plan divin, et qui le reprend. Combien de fois, vous voyez, moi, parfois on peut en retirer des leçons pour nos propres vies, parfois on peut avoir comme ça des scénarios préétablis dans nos vies. Moi, je me souviens un jour, quelqu'un a prié pour un bébé. Et un ministre prophétique qui lui a dit, ce bébé, plus tard, avec son mari, il va sauver des juifs. Il va les cacher, il va les sauver. Et un jour, j'ai partagé ça à une personne qui était proche, c'était la grand-mère de ce bébé. Et la grand-mère était toute surprise, et je pense même choquée intérieurement. Parce qu'elle s'attendait peut-être à ce qu'on prophétise une belle carrière, vous voyez de l'épanouissement personnel à tous les niveaux. Et là, quand elle a entendu ça, je pense que c'était pas dans son scénario. Et parfois aussi, on peut être comme ça dans un scénario, un peu le rêve américain, vous voyez? Alors que parfois, non, ce n'est pas forcément ça. Et dans la foulée, Jésus leur dit, là c'est dans Marc 9, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et je trouve que c'est beau cette réponse. Dieu n'est pas avare en confirmation. Parce que lorsque Jésus a repris Pierre, on nous dit aussi dans le texte biblique qu'il s'est retourné vers ses disciples. Donc quelque part, Pierre n'était peut-être pas le seul à penser que quelque part, là, Jésus disait des choses qui n'étaient pas conformes au plan divin. Mais là, il dit, écoutez, parmi ceux qui sont là, quelques-uns vont voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Et donc, vous verrez, certes, je vais souffrir, on va me faire souffrir, je vais mourir à la croix, mais je vais ressusciter et je vais régner. Et donc, quelque part, c'était comme une confirmation dont les disciples avaient besoin et que Jésus allait faire venir. Que nous dit le texte dans Marc 9 ? 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Dans une autre version aussi, il est dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici parmi les disciples ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et là, règne peut aussi être traduit par splendeur royale. Qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans sa splendeur royale. Donc, les commentateurs disent que cette promesse de Jésus-Christ, elle s'accomplit dans le cadre de ce qu'on appelle la transfiguration. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de la transfiguration, de cet épisode de la transfiguration, et faire quelques remarques à ce sujet. Donc, Jésus, il prend avec lui 3 disciples, et je vais lire ce passage qui n'est pas très long, qu'on retrouve donc dans Marc 9, Luc 9, c'est facile à retenir, et Matthieu 17. Là, on retrouve le récit de la transfiguration. Marc 9, Luc 9, Matthieu 17. J'ai choisi Luc 9. Écoutez, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, voyez le lien entre les paroles, la promesse qu'il a donnée et ce qui allait se passer, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Je trouve que Pierre est touchant. Vous savez, l'une des dernières paroles que le Seigneur adressa à Pierre, c'est « Paie mes brebis, prends soin de mes brebis. » Et finalement, c'est ce que Pierre va faire. De diverses manières, et par rapport à cet épisode de la transfiguration, Jésus va leur donner un ordre. Il va leur dire, quand ils descendent la montagne, il leur dit « Ne parlez à personne de cette vision avant que je ne ressuscite. Ne le faites pas, mais une fois que je serai ressuscité, faites-le. » Et pour moi, c'est donc Pierre l'a fait, dans la 2e épître de Pierre, et je trouve, pour moi, c'est comme une confirmation de plus que Jésus est ressuscité. Parce que sinon, Pierre ne l'aurait peut-être même pas fait. Une fois que je serai ressuscité, vous le raconterez. Il l'a fait. Et ce qui me touche chez Pierre, on trouve ça dans sa 2e épître. Il dit, au chapitre 1, « Je prendrai soin de vous rappeler ces choses. » Écoutez ce qu'il dit. Je trouve ça me parle et ça devrait nous parler en tant qu'Église Josué. Il dit « Je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Il y a des choses qu'on sait, on est, il me semble, bien affermis dans la vérité ici, mais malgré tout, il dit « Je vais prendre soin de vous les rappeler encore une fois. » Et il dit, il va plus loin, « Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, dans mon corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Parfois on sait les choses, on est ancré dedans, mais il peut y avoir comme les disciples là dans la transfiguration, comme une espèce de, je dirais pas de sommeil, mais de somnolence. Restons en éveil. Et ensuite il dit, je sais que je la quitterai subitement ma tente, c'est-à-dire mon corps, ainsi que notre Seigneur me l'a fait connaître. Écoutez ce qu'il dit. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. J'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez vous souvenir de ces choses. Et moi je trouve c'est touchant parce que 2000 ans après, on est là et on va lire un extrait de son héritage quelque part qui nous a légué. Je vais prendre soin que quelque part vous disciples et les générations qui vont suivre, vous puissiez entendre ce que moi j'ai vu et entendu. Et de quoi s'agit-il? Et on trouve ça au verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a, donc là, il raconte à nouveau l'épisode de la transfiguration. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc là déjà, on a à travers cet épisode de la transfiguration, déjà une confirmation de l'identité de Jésus qui est bien le Fils de Dieu. Parce que certains disciples en ont peut-être douté suite à ce qu'il a annoncé, le fait qu'il allait être frappé, qu'il allait souffrir, qu'il allait être mis à mort. Donc on a cette confirmation claire de la part du Père, celui-ci est mon Fils. Jésus est bien le Fils du Dieu vivant, conformément à la révélation reçue par Pierre. Et on a en même temps l'accomplissement que la promesse a faite à ses disciples, en disant, ici parmi vous, certains vont voir la puissance du Fils de l'homme. Oui, donc Jésus, il va être brisé, effectivement, mais il va être brisé et il va briller. Et c'est ce qu'on retrouve dans cet épisode de la Transfiguration, avec ses vêtements éclatants, tout blancs. Et parfois, moi j'ai envie de dire, c'était en tout cas mon chemin, et j'ai envie de dire d'une certaine manière, je pense que c'est peut-être le chemin, le sentier que nous avons tous emprunté, c'est que quelque part, parfois au niveau de notre chair, de notre nature charnelle, on a besoin d'être brisé. Et parfois, oui, plus on est brisé au niveau de notre nature charnelle, plus ben, on peut briller. Plus on peut laisser la place à la lumière. En tout cas, moi, je l'ai vécu et j'ai dû être brisé maintes et maintes fois, surtout au début de ma conversion, parce qu'il y avait des choses, des paradigmes, des choses qui n'étaient pas alignées sur la parole de Dieu. Et ça a mis du temps. Parfois, ça a fait mal. Ça a fait mal. Mais je pense que si je donnais le micro, je crois que chacun pourrait parler aussi de ce brisement qui est parfois nécessaire, mais pour briller davantage. Et je pense que parfois, même encore de nos jours, on peut encore être amené à vivre des brisements, mais qui sont salutaires dans tous les sens du terme. Le contexte de la deuxième épître de Pierre, c'est Pierre qui avertit, qui met en garde face aux faux docteurs. Face aux faux docteurs, et il le dit clairement, il dit « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui renieront le maître, plusieurs les suivront, la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux, par cupidité ils trafiqueront en vous, de vous au moyen de paroles trompeuses. » Jude dit carrément, parle aussi de ces faux docteurs, parce qu'il y en a énormément de nos jours aussi, il dit qu'ils renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Et 1 Timothée 4 parle aussi des faux docteurs, et d'ailleurs le faux docteur, littéralement ça veut dire en tout cas dans 1 Timothée les gens qui parlent faussement. Les gens qui parlent faussement. C'est la définition des faux docteurs. Et vous savez, je vous avais parlé dernièrement du New Age. Et ce qui était intéressant, c'est suite à ce que je vous avais partagé concernant ce mouvement New Age, qui est quand même assez présent dans nos sociétés, c'est que quelques jours après, j'ai pu avoir une discussion longue avec un adepte, mais un fervent adepte du New Age, alors que ce n'était pas prévu. Et lui, il me parlait de son faux docteur, il me parlait d'un yogi, donc quelqu'un là qui pratique le yoga, qui est beaucoup sur Internet. Il dit, oui, mon yogi dit ci, mon yogi dit ça. Et on a d'abord commencé par un débat d'idées. Et c'était pas très fructueux, mais c'était respectueux par contre, respectueux dans l'échange. Et à un moment donné, il y a eu ce que j'appelle un shift, il y a eu un changement. Quand je lui ai commencé à parler de témoignages personnels, de ce que j'ai vécu concrètement. Quand je lui ai parlé de ce que j'ai vécu aussi, des miracles que j'ai vécu dans ma vie, des miracles, signes et prodiges dont j'ai pu être le témoin. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Et il me regarde et me dit, suite à ce témoignage que je l'ai partagé, mais toi, tu as vécu une grâce. Il me dit ça. Tu as vécu une grâce. Et dans la foulée, je lui dis, mais tu sais, tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Contrairement à ce que le New Age dit, non. Jésus dit que c'est seulement lui le chemin qui mène au Père. C'est seulement lui. Et il me regarde et me dit, mais tu sais moi ce que je crois ? L'Église, je crois que l'Église primitive, elle a été dénaturée. Je dis, et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est l'Église primitive qui a été dénaturée. Et parce qu'il me dit, ouais, à l'époque, l'Église primitive, il y a des miracles, les signes prodiges. Je dis, oui, c'est ça. Et là, actuellement, je lui dis, il y a encore de ça. Il y a encore de ça. Tu ne vois pas tout ce qui se passe dans le monde chrétien. Mais tu as raison de dire que, à un moment donné aussi, l'Église a été dénaturée. Que nous dit 2 Pierre ? La voix de la vérité a été calomniée, a été déviée par les faux docteurs. Exact. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et ça, c'est, il y a eu de bonnes choses dans l'histoire de l'Église, mais malheureusement, il y a aussi eu des faux docteurs qui ont fait des dégâts. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, en quelque part séduisant des personnes. Mais heureusement qu'il y a eu ensuite de vrais prophètes et de vrais docteurs qui se sont levés tout au long de l'histoire. Je pense notamment à la réforme, mais ensuite après aussi, avec toutes ces réformes respectives qui ont eu lieu après et qui ont quelque part réhabilité la voie de la vérité. Et je pense qu'on est encore en chemin en plus. Parce que fait Pierre ? Il avertit dans son épître, dit je vous avertis, faites attention à ces faux docteurs. Et il dit, et il ne va pas rentrer dans le raisonnement, pas tellement. Il va dire, moi, je n'ai pas suivi des fables habilement conçues. Et peut-être que c'est une allusion aux faux docteurs qui ont fait comme ça des sortes de doctrines un peu avec des divers mélanges, comme on en a aujourd'hui d'ailleurs, comme on en a aujourd'hui, notamment dans le New Age. Et là, Pierre, qu'est-ce qu'il fait ? Pierre, il raconte l'épisode de la transfiguration. Il dit, moi j'ai vu. Parce qu'il dit, les faux docteurs, le problème c'est que plusieurs faux docteurs à l'époque, ils reniaient Jésus-Christ. Et c'était grave. Il dit, ben moi, j'ai vu de mes yeux, j'ai vu le Fils de l'homme venir avec puissance. J'ai vu Dieu le Père confirmer qu'il était le Fils du Dieu vivant. Donc les apôtres, ce ne sont pas des théoriciens, mais des témoins. Et ensuite, donc je reviens à l'époque, récit de la transfiguration. Et là, il est question de trois tentes, n'est-ce pas ? Hein, vous les connaissez, la tente du Christ, la tente de Moïse, qui représente la Torah, la parole, et la tente d'Élie, qui représente les prophètes, le prophétique. Ben déjà, prenons la tente de Jésus-Christ. Donc déjà combattu par les faux docteurs, hier, et aujourd'hui, et qu'il sera encore. Donc des gens, des faux docteurs qui nient la divinité de Jésus-Christ et qui nient son œuvre à la croix. Et ensuite, je trouve ce clin d'œil, enfin, c'est le clin d'œil du Seigneur. Pourquoi c'est Élie et Moïse qui apparaissent quelque part? Ça aurait pu être, je ne sais pas, d'autres. Oh, Enoch, pourquoi pas? Pourquoi ces deux-là? Et restons juste dans le contexte de l'époque. Les disciples, eux, ils avaient la Torah, ils avaient l'Ancien Testament. Et ils suivaient la voie de leur père. Ensuite, Jésus est venu et il leur annonçait quand même quelque chose de révolutionnaire. Et eux, peut-être qu'ils se sont demandé, ouais, dans leur cœur, mais est-ce que nous, on suit vraiment encore la voie de nos pères? Parce que là, avec ce que le Christ nous annonce, il y a peut-être eu de la tentation dans leur cœur. Et là, qui arrive ? Moïse, qui représente la loi, et Élie, qui représente les prophètes. Ils arrivent, ils discutent avec Jésus. Et ce qui est intéressant, on nous dit même de quoi, au sujet de quoi ils parlent. Ils s'entretenaient au sujet de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. C'est-à-dire que c'est la loi et les prophètes qui confirment que Jésus, oui, allait souffrir à la croix, qu'il allait mourir à la croix à Jérusalem. Donc, confirmation sur tampon, confirmation sur confirmation pour rassurer quelque part les disciples. Et j'aime le cœur de Dieu aussi qui n'est pas avare en confirmation lorsqu'on est parfois dans le doute. Je me rappelle un jour, j'avais justement un combat dans mon cœur parce que je comprenais pas par rapport au monde catholique et tout ça, avec des gens charismatiques dans le monde catholique qui parfois voilà ont des doctrines que je ne partage pas, tout ça, et j'étais vraiment en combat et par rapport à ça. Et un jour j'étais à Colmar et là Pierre Daniel Martin, sans le savoir, il me regarde et me dit: tu sais, ce qui est important, le plus important, c'est l'assurance de la foi, c'est pas l'assurance de la compréhension des choses. Le plus important, c'est l'assurance de la foi et pas l'assurance de la compréhension des choses. Pierre, souvent on l'associe à quelqu'un qui a des hauts et des bas. Et je voudrais juste aussi dire quelque chose par rapport à Pierre, Élie, Moïse aussi, ces hommes de Dieu. Moi, j'ai déjà vu deux excès. Premier excès, c'est des personnes qui les mettent sur des piédestals, sur un piédestal. Ça, je l'ai déjà entendu. Ce sont des hommes comme nous, bien sûr qu'ils ont une destinée particulière, mais qui sont aussi, qui peuvent aussi faire preuve de faiblesse. Et un jour aussi, j'ai entendu quelqu'un parler de la faiblesse d'un homme de Dieu de la Bible, et là quelqu'un dit: ah non, tu peux pas dire ça, c'est injuste, tu ne peux pas pointer du doigt une quelconque faiblesse. Comme j'ai vu l'excès inverse aussi une fois lors d'une conférence où on était mal à l'aise aussi avec Julie, où un orateur a commencé à se moquer des apôtres. Il a dit: mais comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Et il y avait pas tellement d'honneur dans son message. Moi, je pense qu'il faut rester dans l'honneur, mais en se disant que ce sont des personnes qui sont comme vous et moi. Et moi, ça m'a parlé aussi par rapport à mon identité. Pierre, il a été complimenté par Dieu, par Jésus-Christ, et dans la foulée, il a été réprimandé, n'est-ce pas? Et dans nos vies, c'est quelque chose qui nous arrive aussi. On nous adresse des compliments, et parfois on nous adresse des réprimandes, n'est-ce pas? Et moi, j'ai bien aimé cette phrase de Nicky Gumbel, un des responsables du parcours Alpha. Il a dit la chose suivante: quand les personnes vous complimentent, ça ne doit pas vous monter à la tête. Et quand quelqu'un vous réprimande, ça ne doit pas descendre dans votre cœur. Ça, j'ai bien aimé. C'est-à-dire que, quelque part, ce qu'on vous dit, ça doit être à sa place, à sa juste place. Que les louanges qu'on fait à votre égard, ça ne doit pas monter à la tête. Et les réprimandes, ça ne doit pas descendre dans ton cœur, ça ne doit pas t'affecter dans ton identité. Et ça, c'est un combat parfois. Ensuite, je me suis posé une autre question par rapport au fait que Jésus emmène 3 apôtres sur la montagne. Pourquoi pas plus ou moins? Pourquoi pas, je sais pas, juste Jean ou Pierre? Et j'ai eu la pensée suivante, c'est que la Bible nous dit quand même que toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et je me suis demandé, c'est une hypothèse que j'aimais, si justement, ben, c'est la parole qui le dit, et eux, ils étaient ancrés dans la parole. Toute déclaration, toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Là, il y avait 3 témoins qui ont pu confirmer que Jésus était bien le Fils de Dieu. Ces gens étaient de la même nature que nous, n'est-ce pas? Élie aussi. D'ailleurs, c'est l'épître de Jacques qui nous le dit, que Élie était de la même nature que nous. Élie qui a connu des hauts, donc sa victoire face au prophète de Baal, et des bas quand il a fui aussi devant Jézabel, et qui a dit: c'en est assez, je ne suis pas mieux que mes pères. On a tous ces hauts et ces bas, mais ce qui est beau, c'est que Jacques nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous, et qu'il pria pour qu'il y ait de la pluie, et la pluie est arrivée. On a aussi prié pour la pluie. Là, elle est venue avec abondance, hein, n'est-ce pas? Et ensuite, il a prié pour que la pluie s'arrête. Peut-être qu'on a certains aussi ont prié pour que la pluie s'arrête. Là, elle s'est arrêtée. Merci Seigneur. Mais pour dire qu'il avait cette autorité dans la prière que Dieu lui a donnée, mais qu'il est comme nous. Et que nous dit Jacques? La prière du juste est d'une grande efficacité. C'est-à-dire que nos prières sont d'une grande efficacité. Et d'ailleurs, quand est-ce que, vous avez capté ça, quand est-ce que Jésus a brillé à partir de quel moment Jésus a commencé à briller sur la montagne? Quand? La Bible nous le dit. Voilà, la Bible, elle est précise. Elle nous dit quand il a prié. Ah, j'ai donné la réponse. C'est quand il a prié. Luc 9, 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et juste avant, pourquoi ils sont montés sur la montagne? Pour prier. Donc l'importance spirituelle de la prière. Persévérons dans la prière. Persévérons dans la prière. D'ailleurs, la Bible nous dit persévérer dans la prière. Si on était tout de suite exaucé, on n'aurait pas besoin de persévérer. Ensuite, les mots du Père. Celui-ci est mon fils. Dieu aurait pu dire sur la montagne, face à ses aux disciples, c'est lui le Messie. Mais si, c'est lui le Messie. Il commence par dire celui-ci est mon fils. Donc d'abord la filiation. Aussi dans notre identité, d'abord la filiation. On est avant tout fils et fille de Dieu. Et ensuite il dit écoutez-le, écoutez-le. Donc il valide, il confirme que Jésus le Fils est bien le Messie. Il confirme le fait que Jésus va certes être brisé, mais qu'il va se relever et qu'il va briller. Cette tente de Jésus-Christ, je crois que c'est important qu'elle soit aussi bien dressée dans nos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire sa seigneurie, la seigneurie de Christ dans nos cœurs, qu'elle soit bien établie. Parce qu'on a une responsabilité aussi par rapport au monde. J'ai bien aimé aussi la prière de Marion qui disait ouais, « Prions pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur dans notre entourage ». Mais on a cette glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, ceux qui ne le connaissent pas, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ça commence par se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ. Ça, c'est la première tente. Et d'ailleurs, dans l'ordre, c'est toujours Jésus-Christ qui apparaît en premier quand on cite les trois tentes. Christ, Moïse et Élie. Et ensuite, il dit... Celui-ci est mon fils bien-aimé. Se savoir fils, c'est une chose, mais se savoir fils bien-aimé, c'est encore autre chose. Ne jamais douter de l'amour du Père, quelles que soient nos circonstances, quels que soient nos défis. Et vous avez bien sûr l'attente de Moïse, ça c'est l'attente de la parole, qui elle aussi doit être bien dressée dans nos cœurs. C'est le mode d'emploi du Créateur, j'ai envie de dire, qui doit bien être ancré, on insiste souvent là-dessus. Et il y a non seulement la parole écrite qui doit être ancrée, qui doit tabernacler, mais aussi ce que j'appelle les versets oxygène. D'ailleurs, oui, avant, j'ai dit, ça m'est venu vraiment comme ça. J'ai dit, Véronique, la joie du Seigneur, notre force, c'est vraiment un verset oxygène. Et c'est-à-dire un verset qui nous fait un tel bien. Moi, pendant les premières années de la conversion, j'étais souvent en proie à la condamnation, à la culpabilité. Et j'avais ce verset oxygène, c'était « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Je vous le dis franchement, sincèrement, J'aimais le lire, le relire. Ça me faisait tellement du bien de le lire. Et ça m'a mis du temps à l'assimiler spirituellement. Ça a mis du temps jusqu'à ce qu'il tabernacle, qu'il habite dans mon cœur, ce verset. Oui. Parce que parfois, voilà, il y a un long chemin jusqu'à nos cœurs, en fonction aussi de notre parcours à chacun, de notre passé. Et ensuite, il y a la tente d'Élie. Ça, c'est la tente des prophètes, ça c'est l'attente du prophétique. Et je crois que actuellement c'est très important de bien examiner les prophéties du Premier Testament, qu'on appelle aussi l'Ancien Testament, surtout par rapport à Israël. Et vous connaissez Derek Prince, cet homme de la parole, et il a pris 16 paroles prophétiques sur Israël. Il a fait une analyse et il a vu que 13 d'entre elles étaient déjà accomplies et qu'il en restait 3. Et il a simplement dit la chose suivante, lui il avait une tête comme ça, ce monsieur, université de Cambridge, docteur en lettres. Il dit, même, il s'adressait aux personnes les plus sceptiques, il dit, écoutez, si moi on me parle de 16 prophéties, que 13 se sont déjà accomplis, ça fait à peu près un taux de 80%. Moi, je prendrai à votre place très au sérieux les trois prophéties qui restent et qui touchent Israël. Le prophétique. Et par rapport à cela, j'aimerais juste aussi revenir sur ma fille Elisa, parce que le prophétique, ça englobe aussi la vie de l'esprit, les visions, les songes. Elisa, quand même, qui a eu ses deux rêves au sujet de la montagne, et ça concernait l'église Josué, être sur la montagne, comme ses disciples qui sont sur la montagne de la transfiguration. Et vous savez, la montagne, je vois deux composantes au niveau de la montagne. Premièrement, c'est un endroit de révélation, d'intimité avec le Seigneur. Et ça, on le voit très bien avec les trois disciples. On le voit aussi avec d'autres hommes de Dieu, bien sûr, Moïse notamment. Mais il y a aussi une autre facette qu'on connaît moins, c'est celle de la communion fraternelle. Je vais y revenir dans quelques instants. La communion fraternelle. La montagne, c'est aussi l'endroit de la communion fraternelle. Et c'est ce que Élisa voyait d'ailleurs. La puissance spirituelle de la communion fraternelle. Et là, je voudrais juste parler de Benjamin courtement. Benjamin, il a peut-être vécu cette dimension, parce que ce week-end, il a emmené quelques élèves, dont Rachel aussi, à la montagne, ici au Grand Ballon, je pense, ou quelque part dans le coin, en tout cas, ici dans les Vosges. Il les a emmenés bivouaquer. Donc ils ont eu beaucoup de courage pour le faire. Et les deux sont là, j'ai vu Rachel aussi, les deux sont là, donc bravo à eux aussi. Mais je pense que à travers cela, il y a des choses qui ont été imprimées dans leur cœur. Et dans ces moments-là, on vit aussi, je pense, des choses fortes au niveau de la communion fraternelle. Donc merci beaucoup pour ce genre d'initiative, Benjamin. Et moi, ma prière, c'est que ces deux composantes, on les vive pleinement ici à l'église Josué. Le domaine de la révélation, mais aussi le domaine de la communion fraternelle. Vous savez, peut-être c'est pas encore visible, mais on travaille au niveau du conseil de l'église Josué. On travaille, on a deux chantiers en cours, le secteur pastoral est lié à lui aussi les maisonnées. Et cet été on a travaillé dessus, là on est en train de revoir avec tout le conseil, toute une stratégie quelque part pour développer ce secteur. Donc priez pour nous s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien avancer et que cette dimension de la communion fraternelle soit pleinement vécue ici. Donc je parlais de la communion fraternelle justement liée à la montagne. Et il y a quelques temps de cela, c'était juste avant les vacances d'automne, il y avait les lycéens de l'établissement Daniel qui ont participé à une grande rencontre internationale avec des Australiens, des Hongkongais, des Allemands et d'autres, des Lituaniens. Et moi, je ne savais pas si je devais participer, parce que ça fait depuis 10 ans que pendant les vacances d'automne, j'organise des rencontres internationales. J'étais un peu fatigué. Sincèrement, je vous le dis, je n'étais pas motivé. Et une nuit, je fais un rêve, et dans ce rêve, je me vois avec Patrick Schmidt, le directeur de l'établissement Daniel, et je nous vois dans un centre commercial en Allemagne. Et je nous vois annoncer l'évangile, et je vois des personnes allemandes qui viennent nous voir et qui sont à l'écoute. Et là, je me suis dit, oh là 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 là, là pour moi, je suis allé voir Patrick Schmidt, et là, c'est le signal que le Seigneur veut que je m'engage, malgré mon manque de motivation. Et il y avait un projet, une des missions, c'était d'aller au Hartmannswillerkopf, d'aller sur la montagne, avec des élèves de différentes nationalités, d'aller donc sur ce site de la Première Guerre mondiale, et de faire des travaux d'espace vert. Et donc je me suis dit, ah là j'ai le feu vert du Seigneur, parce qu'en plus il y avait des Allemands dans le groupe, j'avais le feu vert pour y aller. D'autant plus que Patrick Schmidt m'a dit, à la fin de ces travaux, il y aura une cérémonie dans la crypte. Et cette cérémonie, on peut quelque part la mener comme on veut. Et là, j'ai dit, ah, en plus, il y aura des personnes qui ne sont pas forcément chrétiens là-dedans. Ben là, je vais m'occuper de cette cérémonie. Pour moi, j'avais le feu vert du Seigneur pour organiser cette cérémonie. Et donc, pendant la cérémonie, j'ai annoncé l'évangile. Et après, j'ai lu Ésaïe 2, 2. je l'ai lu dans la crypte, donc il y avait tous les élèves qui étaient réunis, des personnes aussi donc qui appartenaient au personnel du Hartmannswiederkopf. Ésaïe 2:2, je vais vous le lire en partie. Il arrivera dans la suite des temps, on est dans le prophétique là, que la montagne de la maison d'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel ». Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Et je trouve que c'est une belle prophétie parce que qui annonce des temps de paix au final. Et donc il y a ensuite une élève française qui est venue avec une élève allemande. Je ne sais pas si vous étiez dans cette crypte, c'est vraiment un endroit particulier. Elles se sont donné la main, comme François Mitterrand l'avait fait à l'époque avec Helmut Kohl. Mais c'est vraiment un moment solennel. Elles se sont donné la main et elles ont commencé à prier. Elles ont commencé à invoquer le Seigneur. Et c'était vraiment fort. Mais vous savez, quand on annonce l'évangile aussi, j'ai l'impression que parfois il y a des choses qui viennent à la lumière. Et là, je vais m'adresser aux intercesseurs, parce que après avoir annoncé l'évangile dans cette crypte, après avoir eu ce temps de prière, il y a une personne qui est venue là du Hartmannswiederkopf, qui est venue me voir, qui me dit « Ah, mais vous savez, ici au niveau spirituel, oui, il y a des choses. On est ici dans ce qu'on appelle un champ vibratoire. » C'est-à-dire que l'architecte, quand il a fait cette crypte, il voulait qu'on soit exactement dans le champ vibratoire, parce que vous voyez, il y a la grande croix là, du Hartmannswiederkopf, puis il y a la crypte, et ensuite il y a un autre endroit là sur la colline. Et vous savez, parce qu'il y avait des druides qui étaient là à l'époque, et voilà. Et donc du coup, nous, on se dit qu'il y a les âmes qui peuvent ensuite s'élever, je ne sais pas où, à travers ces champs vibratoires. Et là, ça fait tilt dans ma tête. Parce que cette colline, cette montagne, on l'appelle aussi la mangeuse d'hommes. C'est-à-dire que c'est là où il y a eu, pour rien du tout, pour quelques mètres, il y a eu des milliers de morts. Et un jour, il y a aussi un intercesseur de l'église Porte Ouverte, il me dit quelque chose qui m'a vraiment intrigué, et je n'ai pas pu le vérifier sur Internet, j'ai un peu cherché. Il m'a dit, tu sais que Wattwiller, à l'époque, avait le taux de suicide le plus élevé de France. Je suis allé voir, j'ai pas trouvé. Mais je me suis dit, ah, moi j'avais relié ça à la Première Guerre mondiale, mais je me demande si c'est pas lié à ce que ces faux docteurs ont fait dès le début, ces druides. Et je me dis, ben voilà, qu'est-ce qu'il y avait là au niveau occulte? Moi, en tout cas, c'est ma position. Après, je lègue ça aux intercesseurs. Vous saviez ça, qu'il y avait déjà des druides qui avaient fait des choses? Ah ouais, moi d'accord. Aussi, bah, je pense que l'architecte, oui. Oui. Ah oui. En tout cas, voilà. Une petite parenthèse pour les intercesseurs. Mais c'est intéressant comme les choses viennent à la lumière parfois. Et juste vous parler quelques instants de ces travaux d'espace vert. Vous savez, on était sous la pluie avec des Australiens. Et on a non seulement débroussaillé, mais ce qu'on a fait, on était dans ces cratères quoi, qui étaient là, suite à l'impact d'obus, et notre mission consistait à enlever les feuilles. À enlever les feuilles pour qu'on puisse voir le cratère. Le bénévole me disait, vous savez, si on fait rien, en 2-3 ans, vous voyez plus rien. Et là, moi, j'étais au fond de ce cratère, là, en train de sortir les feuilles avec d'autres. Et vous savez, quand vous faites ça pendant des heures, ça vous fait un peu réfléchir. Et là, ça me fait penser à ce qu'il a dit Pierre, quelque part rester en éveil, se tenir en éveil. Parce que c'est comme si là si on ne faisait rien, la nature allait reprendre ses droits et couvrir quelque part ce cratère et ensuite on ne verrait plus rien. Mais quelque part c'est, veillons aussi à notre cœur, parce que ça va venir tellement vite que notre nature charnelle quelque part, elle veuille reprendre ses droits, qu'elle veuille reprendre le dessus. Et qu'elle veuille ensuite aussi même nous faire oublier des choses. Et ça, c'est terrible. Et on voit ça dans l'histoire de l'homme, l'oubli. Et pourquoi la Bible nous dit sans arrêt, rappelle-toi. Parce qu'il y a un combat, Vous savez, la guerre actuelle, c'est une guerre d'information, mais c'est aussi une guerre de mémoire. Hein. C'est aussi une guerre de mémoire qu'on a actuellement en Israël. Je n'irai pas plus loin. Donc restons attachés à ces trois tentes. Tente du Seigneur Jésus dans nos cœurs, la tente de la parole et la tente du prophétique. C'est John Wimber qui disait, il faut les trois. Et d'ailleurs, il y a des gens qui se sont donnés ces derniers siècles pour que ces trois tentes puissent être quelque part restaurées. C'est John Wimber qui dit, si tu restes seulement attaché à la lettre écrite, tu t'assèches. En anglais, dry up, tu t'assèches. Mais si tu t'attaches seulement à l'esprit, il dit, you blow up, tu gonfles, tu exploses, et t'es un peu là, hein, là-haut, hein, et tu t'ouvres à n'importe quel vent de doctrine. Justement, oui, parce que t'es dans les yeux, tu vagabondes dans les airs. Mais il dit, si tu t'attaches à la parole, à l'esprit, you grow up, c'est là que tu grandis. Et c'est ça qui est capital aussi pour nous. Pierre dit, il est bon que vous soyez là. Il s'adresse quelque part, voilà, aux trois, Moïse, Élie et Jésus, Christ avant tout. Il est bon que vous soyez là. Moi, j'aime bien parce que quelque part, Pierre, il est un peu dans l'honneur aussi, dans l'hospitalité. Il est bon que vous soyez là, je vais vous dresser une tente. Certains disent aussi que c'était peut-être la fête des tabernacles à l'époque. Parce qu'ils disaient, ah, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Peut-être, ça c'est à vérifier. Et autre point, quel est le point commun justement entre tous ces hommes qui sont sur la montagne? C'est qu'ils sont tous juifs. Et ça, c'est aussi important. Israël. Je reviens à Ésaïe 2:2, que j'avais lu partiellement avant, que je vais juste compléter, et que j'ai lu dans la crypte. D'ailleurs, dans la crypte, c'est intéressant, vous avez des versets, hein. Je suis la vie et la résurrection. Vous avez ensuite même un verset d'Ézéchiel, assez intéressant de ce point de vue-là. Ésaïe 2:2, qu'est-ce qu'il est dit? Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Là, on nous... Quelque part, l'idée, c'est pas dire, ah ben là, maintenant, il faut mettre une kippa et tout ça, non. Mais c'est dans notre cœur, c'est de revenir à ses racines. Et ça, c'est quelque chose aux racines hébraïques que j'aimerais développer, pour qu'on comprenne ce que ça veut dire et ce que ça veut pas dire, parce que ça peut faire peur. À revenir aux racines hébraïques, là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est judaïser? Non. C'est, comme le disait Pierre Delmartin, c'est une question de mentalité. C'est ce... C'est les espaces verts, si vous voulez. C'est être débarrassé de ce levain constantinien, de Constantin, et de revenir à des racines de la parole, tout simplement. Et d'ailleurs, Jean-Hubert Mazel, dimanche dernier, il a eu une parole pour l'église Josué. Il voyait un grand arbre avec beaucoup de branches, et il disait, oui, mais il y a une sève dans les racines. Et moi j'ai dit à lui qui est à côté, moi je dis, mais la sève de l'olier franc, elle doit faire partie de notre sève. À propos d'Israël aussi, quelque chose que Jean-Hubert m'a partagé, ça m'a vraiment touché, il a dit, mais tu sais, nous, on devait partir avec 30 personnes, là, avec notre église dans le sud de la France, on devait partir en Israël. Figure-toi que la compagnie aérienne, elle nous a contactés pour nous dire qu'il y avait un problème avec les billets du vol retour. Un problème technique avec des billets, on a dû annuler ça. Et moi, j'étais là, je dis, waouh. Il a peut-être pas compris, waouh. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que on a une école partenaire ici à Lahr, en Allemagne, près d'Europa Park, une école chrétienne. Et dernièrement, il y a une prof qui m'a dit, mais tu sais, on aurait dû partir, là aussi comme, peut-être même au même moment que Jean-Hubert et son église, là, on aurait dû partir en octobre en Israël avec des élèves, parce qu'ils font ça tous les 2 ans, ils emmènent des élèves en Israël. On aurait dû partir, mais figure-toi qu'on n'a pas pu le faire parce qu'on avait simplement un problème de carte de crédit. Juste pour ça. Elle m'a dit cela avant. Et donc, j'ai juste relié les deux. Vous voyez, vous partez avec 15 élèves, vous partez avec 30 personnes en Israël. Problème de carte de crédit, problème de billets. quelle coïncidence, n'est-ce pas? Et moi, je vois le cœur, j'aurais dire protecteur du Père. Moi, ça m'a vraiment, ça m'a touché, qui a épargné peut-être voilà des drames à ces personnes et à ces élèves. Et dernier point que je voudrais aborder, la gloire. Ils apparaissaient dans la gloire, Élie et Moïse. Et ce qui est beau, c'est que Pierre, lui, rajoute quelque chose dans sa deuxième épître, quand il parle de la transfiguration, il dit, il y a une voix qui s'est élevée, celle de la gloire magnifique. C'est lui qui rajoute ça, la gloire magnifique. Qu'est-ce que la gloire magnifique? Et la gloire, mais là on voit que ces personnes, donc Élie, Moïse, Jésus, étaient dans la gloire, et on est appelé à cela. On est appelé, et ça se manifeste par des vêtements qui brillent, par des vêtements d'un éclatant. Et on est aussi appelé à briller. D'ailleurs, c'est bientôt la fête d'Hanouka aussi. Hein. Voilà, la fête des lumières. Et nous-mêmes, on est appelé à briller parce qu'on a la lumière de Christ en nous. Et là, ce qui est intéressant à noter, deux choses, c'est que Élie et Moïse étaient là avec Jésus, donc des êtres spirituels, quoi. Quelque part, ils venaient de la gloire. Et Pierre qui dit, mais je vais vous dresser une tente. Et il ne savait pas ce qu'il disait. Quelque part, c'est comme s'il rajoutait un peu du charnel. Mais comme dit, moi je ne lui jette pas la pierre. Oui. Je ne lui jette pas la pierre. Mais parce que moi, peut-être j'aurais dit exactement la même chose. Mais quelque part, parfois, moi j'essaie toujours d'en tirer des leçons pour ma propre vie. Mais parfois, c'est cette tentation toujours de rajouter du charnel. Là où c'est spirituel, on saupoudre un peu de charnel. Et là aussi, veillons à ne pas le faire. Et autre chose aussi, par rapport à cela, c'est que comment ils ont réagi les disciples quand ils ont entendu la voix? Ils n'étaient pas dans la joie, mais ils étaient saisis d'une grande frayeur. Vous savez, le surnaturel, parfois ça peut faire peur. C'est Rémi Bayle aussi qui disait que parfois il y a eu des miracles dans son assemblée. Il y a des personnes qui ont vu ça, elles sont sorties, elles ont eu peur de ce qu'elles ont vu, parce que c'était tangible, palpable, elles ont eu peur. C'est étonnant, n'est-ce pas? Mais parfois on peut avoir peur, et je pense que là aussi c'est un piège dans lequel ils ne font pas tomber, c'est que par peur du surnaturel, par peur de l'invisible, et donc par peur de l'imprévisible, mais quelque part on organise les choses et on laisse peu de place à l'imprévisible. C'est très rassurant, n'est-ce pas? Mais dans ce cas-là, c'est mettre de côté aussi, j'ai envie de dire, l'attente du prophétique. On peut, l'attente de la parole, elle doit être là, mais quelque part, laissons aussi l'esprit agir, même si ça peut être déconcertant. Parfois ça l'est. Regardez, on est au réfectoire de l'établissement Daniel, ça peut être déconcertant, n'est-ce pas? On n'est pas dans des locaux classiques, ainsi de suite, on a là, regardez ce qu'on voit, tout ça. Ça peut être déconcertant. Mais moi, je crois que déconcertant, ça peut rimer avec rassurant. Oui. Même si c'est paradoxal, ça peut rimer avec rassurant. Parce que c'est une question de confiance, tout simplement. Faisons confiance. Mais regardez, à un moment donné aussi, quand il est question de l'impôt dans l'évangile, et ensuite Jésus qui dit à Pierre, va payer l'impôt, et il aurait pu lui dire, je te donne la pièce, regarde dans ta poche, ou je te la donne, regarde, elle apparaît là. Je te la donne. Il va dire, non, tu vas pêcher le premier poisson. Et tu vas ouvrir sa bouche. Mais c'est pas déconcertant, ça? Quelque part? Vous voyez, Pierre, tu vas où? Je vais prendre le premier poisson pour récupérer la pièce. C'est déconcertant. Mais ça, pour moi, je suis désolé, c'est le surnaturel de Dieu. Ses pensées sont bien au-delà des nôtres. Faisons-lui simplement confiance. On est appelé à briller, n'est-ce pas? On est appelé à être transfiguré. Et je crois qu'une des clés, c'est la liberté. Plus on est dans la liberté, plus on va briller. Nous sommes transformés en la même image que le Seigneur. Et de quoi? De sanctification en sanctification? de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, nous dit 2 Corinthiens. On a besoin d'évoluer dans la liberté de l'Esprit. Et d'ailleurs, vous savez, la création entière, elle aspire. Elle aspire à quoi ? À la révélation, mais de quoi ? À la révélation de la liberté des enfants de Dieu. Liberté. Là, ça nous parle aussi, pour moi, c'est à partir du moment où les trois tentes sont établies, on est dans un cadre rassurant dans lequel on peut évaluer, on peut évoluer pardon, dans cette liberté qui est glorieuse. À propos justement de briller, ben on ne peut pas s'empêcher de ne pas penser à Moïse, qui lui-même avait un visage qui rayonnait, n'est-ce pas ? Et là, on a la Bible qui nous dit que ce ministère qu'avait Moïse, que Dieu avait donné à Moïse, qu'il était passager et qu'il est pâle par rapport au ministère auquel nous on peut bénéficier. Le ministère de l'Esprit sera encore plus glorieux. Et il dit, puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Mais c'est quand même fort. On est dans cette assurance-là parce qu'on est sous le ministère de l'Esprit, la troisième tente d'ailleurs, qui est reliée aux deux premiers, inévitablement de toute façon. Mais on est appelé à évoluer dans ce ministère de l'Esprit qui est encore plus glorieux que celui que Moïse a exercé. Donc j'ai envie de conclure, avant de montrer juste une petite vidéo, mais quel potentiel de lumière on a en nous ? Parce que c'est Christ en nous. Et ma prière, c'est qu'on puisse vraiment déverser cette lumière. Non seulement ces prochains temps, bien sûr, mais en tout temps, quelque part. Ce potentiel de lumière, qu'on puisse déjà avoir l'assurance qu'on est rempli de ce potentiel de lumière et qu'on puisse ensuite être dans l'audace et qu'on puisse déverser cette lumière. On est appelé à déverser cette lumière comme une ville. C'est Jésus qui utilise cette image de la ville qui est sur la montagne, encore une fois, sur la montagne et qui est appelée à briller. Bah, nous, on est appelé à monter sur la montagne, à être en communion avec ces trois tentes, j'ai envie de dire, et à briller. Et à briller ensemble sur la montagne, communion fraternelle, et pas chacun dans son coin. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ça, c'était une parole de Pierre. Il a dit, je ne peux pas ne pas parler de ce que j'ai vu et entendu. Et il l'a fait, on a ses écrits. Et je crois que c'est aussi important qu'on puisse être dans cette dimension-là. On ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. Moi, c'est un verset quelque part, oxygène, même encore plus, comme ça m'a vraiment propulsé, ça m'a conduit à écrire. Ça m'a conduit, c'est plus fort que moi avec tout ce que j'ai vu et entendu, ça m'a conduit à écrire. Et donc, comme vous le savez, j'ai écrit un premier livre en 2018, Pas deux fois, qui est un livre d'évangélisation, parce que je dis tout ce que moi j'ai reçu, j'ai tellement reçu de vous d'ailleurs aussi, Église Josué, j'ai tellement reçu, ben je veux le redonner, je veux le partager. Et donc je l'ai fait, et là, j'ai écrit la suite, ça m'a pris 4 ans, et je voudrais vous présenter la bande-annonce de ce livre. Mais avant cela, elle est assez courte, j'aimerais juste honorer et remercier certaines personnes ici. Mais déjà, Julie aussi, à qui je dédie ce livre. J'ai dédié le premier livre à mes parents, parce que mes parents ils sont pas encore au Seigneur. Et ce livre d'évangélisation, je leur avais dédié. Mais ce livre-là, je le dédie à Julie. Et il y a vraiment quelque chose de fort. Il faut que je reste maître de moi-même. Mais vous savez, quand Julie et moi, on s'est connus, moi, je n'étais pas du tout dans la foi. Et elle, pas vraiment non plus, on va dire. Non, tu confirmes. Mais ce qui est fort, et là, je vois cette grâce... comme on appelle ça, cette grâce générale de Dieu, cette grâce qui peut donner à n'importe qui, même aux personnes qui ne le connaissent pas et qui le rejettent, c'est que à un moment donné, j'étais face à Julie et on était encore amis, voyez. Mais j'ai eu la conviction de lui prendre sa main. Et je lui ai pris la main et quand j'ai fait ce geste, je vous le garantis, C'est comme si ma vie, elle a défilé devant moi. Et je ne sais pas ce que c'était, mais pour moi, je savais qu'elle faisait partie de ma destinée. Alors, je ne savais rien de Dieu, mais je savais qu'elle faisait partie de ma destinée. Il y avait quelque chose de fort, c'était plus que du romantisme, vous voyez. Il y a quelque chose dans cette poignée de main, j'ai envie de dire, c'est quelque chose du destin, quelque part, de la destinée. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment te remercier de m'avoir accompagné, de m'avoir aussi laissé du temps aussi pour faire ce livre, pour faire mes recherches. J'étais là dans mes bouquins, dans mes piles de bouquins, là, dans ma montagne de bouquins. Elle m'a laissé beaucoup de temps pour le faire. Elle voyait cette passion et elle m'a beaucoup soutenu. Aussi remercier mes enfants. Ils m'ont tellement donné, mes enfants. Vous savez, parfois, les plus grands enseignants de la parole, c'est des enfants. Juste parfois ce qu'ils disent, des mots par-ci par-là, des sourires, pour moi, c'est inégalable. Donc je leur dédie aussi ce livre. Et je voudrais aussi remercier, Isabelle Beck aussi, qui m'a beaucoup soutenu ces dernières années. Et remercier Mathé Rindel. Mathé, elle s'est farci mon livre deux fois. Elle l'a relu deux fois, parce que voilà, il faut être à l'affût de la moindre faute d'orthographe. Elle se l'est farci deux fois. Donc merci Mathé. Luc, Vito et Denis qui ont relu ce livre. Je vais envoyer le livre à Denis Boucher, qui l'ont relu aussi, qui m'ont fait part de leurs commentaires. Et juste très rapidement, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, quoi ? C'est quand même intéressant de vous le partager. Donc ce livre, il s'appelle déjà « Père de gloire », parce que c'est une expression que j'aime beaucoup, un verset oxygène. Le Père de gloire, parce que ça commence déjà par le cœur du Père. Et ensuite, ce Père qui se manifeste dans toute sa puissance, dans toute sa bonté. Et j'aime cette expression, qui s'appelle « Père de gloire ». Et dans ce livre, très courtement, de quoi je parle ? Mais évidemment de la gloire, ça c'est un sujet que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que le Dieu de toute grâce nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. La Bible dit également que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme les eaux recouvrent, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent quelque part. Et je me dis, waouh, mais c'est quand même un sujet qui va être super important, non seulement pour nos vies à nous, parce qu'on est appelé à la gloire éternelle. Donc, c'est bon de savoir, mais qu'est-ce que c'est exactement la gloire ? Et un sujet important pour nous, mais aussi pour le monde. C'est quand même beau, c'est une belle promesse. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel. Donc, qu'est-ce que la gloire ? Et deuxième, donc là, c'est une partie un peu plus théologique. Et ensuite, la deuxième partie, elle nous concerne, nous, fils et filles de Dieu. C'est un verset que j'ai pris avant. La création, elle aspire. La création, elle soupire, elle souffre. Elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous, en tant que fils et filles de la gloire, on a un rôle à jouer vis-à-vis de la création. Quel est ce rôle ? Quel est ce rôle que toi et moi, on a joué en tant que fils et filles de la gloire ? Et dans quelle mesure on est attendu par la création tout entière ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est notre rôle ? Et enfin, la dernière partie de ce livre, comment est-ce que cette gloire, elle se manifeste concrètement ? Moi, j'aime bien le concret. Moi, j'aime pas quand ça plane trop haut. Moi, j'aime bien le concret. C'est comment cette gloire, elle se manifeste dans ma vie, dans ta vie, dans la vie des autres, de manière concrète. Et enfin, dernière partie du livre, il y en avait quand même une autre, on ne peut pas parler du Père de gloire sans évoquer les enfants d'Israël. C'est impossible. Pardon. Le Père, c'est déjà le Père pour Israël. Et je parle d'Israël, et ce qui est fort pour moi, en tout cas, c'est en 2019, j'avais pratiquement fini la rédaction du livre, et là, je me suis dit, mais à qui le dédier ? Je l'ai dédié à Julie, à mes enfants, ça c'était les premiers. Mais après, j'ai dit, je le dédie au peuple juif. Et là, quand je vois maintenant comment mon livre sort, là, dans cette époque qui est un peu difficile, là, je me dis, waouh. Ils sont certes dans une situation difficile, mais il y a une lueur d'espoir et donc une lueur de gloire. Et celle-ci, voilà, j'essaye un peu de l'exprimer, cette lueur, dans mon livre. Vous savez qu'on était avec Julie au musée Yad Vashem, musée de la Shoah. Ça, c'est vraiment un temps qui m'a touché. Parce qu'on était dans ce musée, donc vous pouvez imaginer ce qu'on voit là-dedans avec Elisa. Mais quand on est ressorti, on s'est assis sur le banc, on était peut-être sonnés, Julie et moi. Mais on voit Ézéchiel, on voit comme ça un verset qu'on peut que voir en sortant d'ailleurs. Ézéchiel 37, 14 qui s'affiche, « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. » Et du coup avec Julie, on a eu une discussion comme ça, mais c'était que dans le sens de l'espoir, tu t'en souviens, de l'espérance, d'une renaissance. Et ça nous a boosté, ça nous a vraiment boosté. Et c'est ce que je veux un peu exprimer dans ce livre aussi, c'est qu'il y a une lueur de gloire. Il y a une lueur de gloire, une lueur d'espoir pour Israël. Ésaïe 60 qui nous dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Amen. Et ensuite il dit un peu plus loin, porte tes yeux alentour et regarde. Ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur tes bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, ton cœur bondira et se dilatera. On a besoin que nos cœurs, parfois, soient dilatés. Et je pense qu'une manière de dilater nos cœurs aussi, c'est de contempler les merveilles de Dieu et d'être dans la reconnaissance et dans la joie. C'est vrai qu'il y a des choses fantastiques qui se produisent actuellement. Là, il y a un professeur de théologie, Michael Licornin, qui a parlé de quelque chose qui circule actuellement aussi. C'est cette fameuse nuit du 9 au 10 novembre 2023. Où vous avez eu 200 musulmans qui étaient dans la bande de Gaza, qui ont rêvé de Jésus-Christ, la même nuit, et qui sont venus s'adresser à ces missionnaires chrétiens qui opèrent bien sûr en toute clandestinité, et qui se sont convertis. Wow, gloire à Dieu, là c'est tout frais. Donc ça, moi, vous voyez, ce genre de choses-là, quand j'entends ça, quand on voit aussi, moi je trouve on ne peut pas, nous ne pouvons pas nous taire. Quelque part. Les gens ont le droit de savoir, ce qui se passe aussi au niveau surnaturel. Y compris aussi dans le monde musulman qui est particulièrement aussi visité. C'est depuis de longues années. Voilà, raconter la gloire. Ça c'est ma passion en tout cas, que j'essaie de faire passer autour de moi, déjà dans ma famille et aussi voilà, partout où je suis et où j'irai. Alors, les livres sont prêts, je ne les ai pas amenés aujourd'hui. Je vais les emmener dimanche prochain. Je ne suis pas, vous savez, comme les faux docteurs que Pierre dénonce. Les faux docteurs, vous savez, les marchands du temple, les faux docteurs, allez, justement, ils annonçaient des paroles trompeuses par cupidité pour se faire de l'argent. Donc, Dieu voit mon cœur. Et il sait très bien que je suis pas là justement pour faire de l'argent. Il dit, ah ben voilà, achetez mon livre, allez, comme ça, ça va remplir la caisse pour les cadeaux de Noël, tout ça. Non, pas, je suis pas du tout dans cette optique-là. Mais en tout cas, je trouve juste que ça peut être un cadeau de Noël, voilà, pour des personnes, peut-être de votre entourage, qui ont soif aussi du surnaturel. On soif d'entendre des choses concrètes sur la gloire de Dieu et qui ont soif aussi d'un Dieu qui est un Père. Et c'est voilà ce qu'on trouve. Donc quelque part, sincèrement, ça va être ma dernière parole. Je vois que l'heure passe. Je suis pas un écrivain et je me vois pas du tout comme ça. Bon, certains m'ont dit aussi déjà par rapport au premier, mais tu pourrais un peu parler plus de toi. J'ai eu ce retour à plusieurs reprises, mais j'ai envie de dire, ça ne m'intéresse pas trop de parler de moi. Je le fais un peu, mais moi j'ai plutôt une approche un peu journalistique. Journalistique, c'est-à-dire de chercheur quelque part. C'est David Lee, il m'a dit, toi t'es un chercheur du surnaturel. Il dit, exactement, le surnaturel de Dieu, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'aime le concret du Dieu. Le concret de Dieu, c'est quand le ciel descend sur la terre, il y a des choses concrètes, palpables. Et même le monde scientifique, le voit. Là, j'ai juste parlé du professeur Brown, donc qui de Harvard, qui est maintenant à l'université d'Indiana, et c'est Lee Strobel qui allait l'interviewer. Donc professeur d'université, et elle voulait voir quel était l'impact quelque part du monde spirituel sur le monde scientifique, et elle allait au Mozambique voir Heidi Becker. Et elle a, avec son équipe médicale, ils sont allés voir l'impact de la prière. Parce que là-bas, il y a pas mal de personnes aveugles et sourdes. Et Lee Strobel a dit, quelle est la conclusion de vos recherches? Quel est le résultat? Et elle écrit, elle lui dit, something is going on. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là-bas. Une scientifique qui dit ça. La science qui plie le genou face au Père de gloire. Amen. Merci pour votre patience.